Ce matin, nous sommes dans Josué. On poursuit notre voyage à travers le périple de Josué et du peuple de Dieu dans la conquête de Canaan. Nous avons lu en préambule ce matin le passage, tout le passage dont il sera question ce matin. Je vais simplement relire les versets 24 et 25 du chapitre 10, sur lequel on va, disons que ça va être un peu le focus auquel on va tourner autour. Donc, Josué 10, les versets 24 et 25. Lorsqu'on eut fait sortir ses rois vers Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit au capitaine des gens de guerre qui avaient marché avec lui, « Approchez, mettez vos pieds sur le cou de ces rois. » Ils approchèrent et mirent les pieds sur leur cou. Josué leur dit, « Soyez sans crainte et ne vous épouvantez pas. Fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. » Alors, on va prier pour demander la bénédiction du Seigneur. Te rendons grâce encore ce matin, Seigneur, de ce que tu as promis d'être avec nous, Seigneur, toutes les fois que nous nous rassemblerions, Seigneur, et nous te remercions encore ce matin pour ta fidélité. Seigneur, de puisses-tu ouvrir nos esprits, nos intelligences, afin que ta parole puisse porter jusque dans les racines profondes de notre cœur, notre Dieu, et apporter des transformations, Seigneur, dans nos vies, des réformes dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Il y a un homme du nom de Richard Dawkins, qui est un athée déclaré, qui revendique, qui prétend que les religions empoisonnent. Et il est une racine majeure de grande méchanceté. Et dans son plus fameux livre, pouvons-nous même dire infâme, appelé « The God Delusion », il répète le thème de la chanson de John Lennon, « Imagine ». Imagine. Imagine aucun poseur de bombes suicidaires. Aucune croisade, aucune chasse aux sorcières, aucune guerre entre Israël et Palestine, aucun massacre musulman, aucune persécution de juifs. Aucune tuerie d'honneur, aucune décapitation de blasphémateurs, aucune flagellation de femme montrant un pouce de peau. Ensuite, il poursuit en pointant un doigt au christianisme et à son histoire de violence. Il est vrai que le christianisme a eu ses croisades. Les catholiques romains et l'Inquisition ont tué des protestants. Les pédobaptistes ont tué des anabaptistes. Les catholiques et les protestants en Irlande s'envoient promener l'un l'autre, pour ne pas dire s'affrontent l'un l'autre, se font sauter l'un l'autre. Et pour rendre les choses encore pires, la Bible a sa part de violence. Il dirait ici que cela prouve le point, en fait. M. Dawkins et les hommes de cette trempe prendraient un livre comme Josué et diraient « Et voilà, en noir et blanc, vous ne pouvez ignorer cette tendance violente et une rivière de sang qui coule à travers Josué. » Au total, Josué totalise 31 guerres et tue et détruit 31 rois. Beaucoup de batailles, beaucoup de sang répandu. Mais avez-vous déjà même remarqué ceci? Nous l'avons d'ailleurs vu dans les études précédentes qu'on avait faites dans le livre de Josué, que les guerres qu'il a combattues, qu'il a menées, nous n'en avons pas beaucoup de détails. Le mot « sang », S-A-N-G, n'est mentionné seulement 5 fois dans le livre de Josué et jamais en relation avec ces guerres. Les 3 batailles dont il nous est donné un profil élevé dans le livre de Josué sont toutes au tout début. La première bataille de Jéricho dans Josué 6, Et il nous est dit très peu de choses de ce qui a pris place en termes de la bataille même. Il nous est dit plus de choses à ce qui est antérieur à cette bataille. Seulement un verset est dévoué au massacre et à l'extermination. La deuxième bataille, nous la retrouvons dans Josué 8, dans cet endroit appelé Haï. Il y a trois versets dévoués au massacre et à l'extermination de la nation d'Haï ainsi que du roi d'Haï. La troisième bataille énoncée est dans Josué 10. Elle survint dans un endroit appelé Gabaon, et ici, nous avons la plus grande description jusqu'ici. Avant que nous allions en détail dans cette bataille particulière, celle-ci est réellement une vraie guerre religieuse. Toutes ces batailles sont sanctionnées par Dieu. Mais vous pourriez vous demander pourquoi? Retournant au début du 20e siècle, des découvertes archéologiques ont été faites et les tablettes d'argile ont été trouvées, qu'on appelle urugotes. Elles ont été découvertes et donnent des détails sur les pratiques religieuses des Cananéens. Cette nation était distinguée par la prostitution, le dérèglement et même les sacrifices d'enfants. Les cultures païennes de ce temps étaient ivrognes et idolâtres, licencieuses et immorales. Et Dieu sait cela. Voyez dans Deutéronome 20, nous y notons ce que Dieu dit à Moïse lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise. Donc, juste avant d'entrer dans la terre promise, Dieu dit ceci à Moïse dans les versets 16 à 18. On a les instructions qui sont données à Moïse. « Mais dans les villes de ces peuples dont l'Éternel, ton Dieu, te donne l'héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire. » C'est assez clair. « Car tu les voueras à l'interdit, les Hittites, les Amoréens, les Cananéens, les Phérisiens, les Éviens et les Yébousiens, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a commandé. » Afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les horreurs qu'ils font pour leur Dieu et à pécher contre l'Éternel, votre Dieu. Ils ont commis des abominations et nous avons besoin de réaliser cela et de se rappeler cela constamment lorsque nous abordons le livre de Josué où nous sommes tentés d'écouter les chuchotements, les rumeurs d'hommes comme ce Richard Dawkins. Donc, ceci étant dit, nous allons retourner sur le champ de bataille, ici dans Josué 10, et nous allons poursuivre le récit sous trois en-têtes. La première, c'est la poursuite pressante de victoire. Deuxième, le symbole graphique ou le signe de victoire. Et troisième, le modèle, le plan clair de victoire. Donc, le premier, la poursuite pressante de victoire. Comme il a été dit précédemment, nous devons garder ceci à l'esprit lorsque nous lisons concernant ces batailles. Ce ne sont pas de simples batailles humaines, entre guillemets, mais elles sont dans un sens très réel, les batailles de Dieu. Dieu combat pour son peuple. Retournant dans Josué 6, la bataille de Jéricho. Avant même que Josué ne saute sur le champ de bataille là à Jéricho, vous vous rappellerez peut-être ce qu'il a vu dans le chapitre précédent dans Josué 5. Il y avait une apparition d'un personnage étrange qui se déclare lui-même être non moins que le commandant de l'armée du Seigneur. Donc, Josué a eu une apparition, on appelle ça une théophanie. Donc, ce personnage a une épée dans ses mains. Et vous ne pouvez expliquer les murs abattus de Jéricho à moins que vous ne reconnaissiez le surnaturel. Ceci était l'agir du Seigneur. La cité de Jéricho n'aurait jamais été conquise à moins que Dieu n'ait bandé ses muscles et exercé son omnipotence. La même chose est vraie lorsque nous tournons dans Josué 8, 1. Vous remarquez comment cela commence. Dieu met de l'avant la stratégie contre la ville de la cité de Haï. Ici, Dieu dit à Josué quoi faire sur le champ de bataille. Encore cette bataille d'Haï ne serait pas une bataille à moins que Dieu n'ait orchestré cette campagne militaire lui-même. Et lorsque nous tournons à cette troisième bataille, ici dans Josué 10 à Gabaon, cela devient plus apparent que Dieu n'est pas passif. Dieu est impliqué et engagé activement. Nous pouvons presque dire cela. Dieu a pris l'épée, le bouclier, l'arc, les flèches et a marché sur le champ de bataille. Nous pouvons noter dans Josué 10, les versets 10 à 11, vous y trouvez quatre verbes de combat et ils sont tous attribués à Dieu. C'est ce que le texte hébreu semble dire, semble présumer que Jéhovah plutôt est le sujet. Remarquez que c'est Dieu qui est derrière ces quatre verbes. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, il leur porta un coup décisif, il les poursuivit et les battit. C'est Dieu qui fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres. Ainsi, voici la manchette, si vous voulez, des journaux concernant Josué 10. Dieu est pour nous, Dieu combat pour nous, Dieu est contre notre ennemi. Et c'est notre réalité, n'est-ce pas? Quelquefois, le diable aime nous convaincre et nous faire penser que nous combattons seuls, que nous sommes seuls dans la bataille, que nous n'avons pas de chance contre notre ennemi. Mais ce n'est pas vrai. Rien ne peut être plus éloigné de la vérité. Nous ne menons jamais cette bataille seuls. Dans les mots de Martin Luther, de ce chant qu'on connaît tous, « C'est un rempart que notre Dieu », en anglais, ça dit « A mighty fortress is our God, a bulwark never falling », un rempart n'échouant jamais, si on dit traduction libre. Je trouve que ça porte plus. Un rempart qui n'échoue jamais, qui rate jamais son coup. Nous avons Dieu qui combat pour nous, mais écoutez bien, cela ne signifie pas que nous n'avons pas aussi à combattre. Dieu n'est pas passif, mais nous ne devrions pas l'être non plus. Et ici, dans Josué 10, il nous est rappelé cela. Josué et son armée d'hommes ne se tiennent pas sur les lignes de côté, mais ils s'exercent eux-mêmes de grande façon. Le verset 9 nous dit qu'ils ont marché toute la nuit pour arriver à cet endroit appelé Gabaon. Le verset 11, il nous dit qu'ils prirent l'épée. De plus, le verset 12, nous y voyons Josué déployer beaucoup d'efforts et s'engageant dans la prière. La vraie prière demande des efforts. La Bible parle du travail de la prière. La prière requiert des efforts. Ainsi, oui, Dieu combat pour Israël, mais Josué et les hommes d'Israël combattent aussi. Dieu est à l'œuvre et nous le sommes aussi. Peut-être avez-vous déjà mémorisé ce texte, sinon on devrait le faire. Philippiens 2:12. Dans la version Osterval, il nous est dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Ainsi, nous avons à travailler. Et le verset 13 poursuit, « Car c'est Dieu qui opère en vous. Vous travaillez aussi, et Dieu aussi. » Et ce sont des réalités qui sont concrètes, vous voyez. C'est pourquoi nous pouvons être confiants de la victoire, car nous combattons parce que Dieu combat pour nous et avec nous. Et en raison du facteur de Dieu, pouvons-nous dire qu'Israël se réjouit d'une autre victoire ici, en cet endroit appelé Gabaon. Les Cananéens ont souffert une défaite humiliante, le verset 11, dans leur fuite devant Israël. Donc, ils sont en fuite. Et le verset 16 nous démontre combien accablante et dévastante, démoralisante, cette défaite était, parce que ces cinq rois amoréens, eux aussi, ont mis leurs espadrilles et se sont enfuis et se sont cachés. Pensons à la première fois que nous avions vu ces cinq rois. Ils avaient formé cette coalition. Ils étaient pour s'en prendre aux Gabaonites. Nous pouvons seulement imaginer alors qu'ils sont en route vers Gabaon, ayant une confiance extrême en eux. Cela regarde comme s'ils étaient pour écraser les Gabaonites en miettes. Mais lorsque Josué et son armée se sont montrés, se sont pointés, au verset 9, ces cinq rois ne savaient pas qui les frappait. Ils n'avaient jamais vu une puissance, une force comme celle-là. Une puissance aussi grande, une puissance divine omnipotente. C'était dévastateur, c'était apeurant. Ils devaient être bouche bée, incrédule. Qui aurait pu prédire ceci? Ces grosses pierres tombant du ciel et les frappant. Que pouvaient-ils faire d'autre que de prendre la fuite? C'est là où nous les trouvons dans Josué 10, 16. Ces cinq rois se cachaient dans une grotte où ils se voyaient certainement en sécurité relative, un genre de bunker, se disant « Personne ne pourra nous trouver ici. » Peut-être ont-ils commencé à se persuader l'idée qu'ils pourraient réévaluer les pertes et repartir une guérilla dans un autre temps. Mais soudainement, ils ont reçu ce rappel, ce « wake-up call » comme on dit, que personne en réalité ne veut entendre. Quand on demande un « wake-up call » le matin, mais quand on est à l'hôtel, on demande à la réception « réveillez-nous », mais quand ça sonne, que le téléphone sonne, puis qu'on est endormi, « oh, bon, ça, on dit, oh non ». Fait que là, c'est comme si on ne veut pas l'entendre. Fait que c'est peut-être un peu dans ce sens-là, comme eux autres, quand ils ont eu ce rappel que personne ne veut entendre, les hommes de Josué les ont découverts et en ont informé Josué et ont en quelque sorte transformé leur endroit en cellule temporaire. La grotte est bloquée et scellée et ils l'ont gardée. Aucune issue possible. Ces cinq rois sont coincés à l'intérieur. Leur endroit de sécurité est devenu leur prison. En quelque sorte, leur endroit d'incarcération. À ce point-ci, Josué fait quelque chose que personne d'entre nous ferait. Il met tout cela, il paye comme si je pesais sur le bouton, il y a un petit bouton « pause » ici. Il met ça pour « pause ». Il retarde leur jugement. Il ne punit pas, n'exécute pas immédiatement les cinq rois. Il aurait pu le faire très facilement en donnant un commandement à ses hommes, et ces cinq rois auraient été exécutés là, immédiatement. Mais Josué retarde la justice. Il permet à ces cinq rois d'être dans le couloir de la mort pour encore quelque temps. Pourquoi cela? Eh bien, c'est parce que Josué a une guerre en main, a une guerre en route. Le verset 19 nous donne des ordres à ses troupes. Et vous, ne vous arrêtez pas. Poursuivez vos ennemis et coupez-leur la retraite. Ne les laissez pas entrer dans leur ville, car l'Éternel, votre Dieu, les a livrés entre vos mains. Il veut que ses troupes finissent leur travail. Il sait que le temps est propice et il ne veut pas que l'armée des Cananéens ne s'échappe et ne leur cause des troubles en chemin, mais il priorise ici et poursuit la victoire. Le verset 20. Après que Josué et les fils d'Israël eurent achevé de leur porter un coup terrible au point de les exterminer, ensuite vous avez cette petite portion. À l'exception des rescapés d'entre eux qui échappèrent en arrivant jusqu'aux villes fortifiées. Donc certains d'entre eux se sont enfuis, ont pris la poudre d'escampette. Même si Josué et ses soldats ont les intentions les meilleures, ils sont vraiment formés pour le combat et ils prennent toutes les précautions nécessaires, même dans la poursuite continue dans les normes de la guerre, certains se sont enfuis. Et c'est un rappel, n'est-ce pas, du fait que nous vivons dans un monde pécheur maudit. La meilleure des entreprises, les conduites les plus diligentes, peu importe combien nous essayons avec effort, combien consciencieux nous suivons les instructions, nous n'atteignons jamais la perfection. Dans nos mariages, dans l'éducation de nos enfants, dans notre travail séculier, même dans notre œuvre, dans le respect de l'évangélisation, les choses ne vont pas toujours comme nous l'espérons ou comme nous le désirons, n'est-ce pas? Il y a des désappointements, il y a des découragements, certains nous échappent. Et c'est la vraie vie, la réalité. Mais dans l'ensemble, nous devons dire ceci. Josué et son armée devraient être heureux et reconnaissants du résultat. Et comment ne pouvaient-ils pas être reconnaissants envers Dieu de les avoir aidés d'accomplir cette grande victoire sur l'ennemi? Au verset 21, nous lisons « Tout le peuple revint tranquillement au camp vers Josué à Makkéda, sans que personne ose dire un mot contre les Israélites. » L'idée ici semble être que la crainte de Dieu a un effet qui se répand dans tout le pays de Canaan. Personne n'ose parler contre les Israélites. L'opposition a perdu sa voix. Matthew Henry dit « Cette expression indique, suggère leur sécurité et leur tranquillité parfaite. Il n'y avait plus aucun danger ou menace. Non seulement Dieu a-t-il attaché les pieds de leurs ennemis, mais il a aussi fermé leur bouche. » Fin de la citation. Ainsi, ils ont joui de la victoire. Donc, nous avons la poursuite pressante de la victoire. Qui nous amène à notre deuxième point, le symbole graphique ou le signe de victoire. Nous rappelons que les cinq rois sont enfermés dans la grotte de Makkéda. Il y a au moins un des rois qui savait ce qui était arrivé à Jéricho et à Haï. Il nous est dit cela au verset 1. Et à ces rois, sans aucun doute que ce roi l'a fait savoir aux autres rois. Donc, il a certainement communiqué ce qu'il savait aux autres rois qui étaient là. Ainsi, ces cinq rois, enfermés dans cette grotte, savent exactement qu'ils sont dans le couloir de la mort. Dans Josué 10, verset 22, il nous amène au point culminant de ce drame. Josué dit alors, « Ouvrez l'entrée de la grotte. Faites-moi sortir de la grotte ces cinq rois. » C'est ainsi qu'on fit sortir vers lui de la grotte ces cinq rois. Le roi de Jérusalem, le roi de Hébron, le roi de Yarmouth, le roi de Lachish et le roi de Églon. Concernant son ces rois, selon toute vraisemblance, ils étaient comme les Hitler, les Staline et les Saddam Hussein de notre ère moderne. Ils étaient brutales, tyranniques, et ils méritaient de mourir. Ils ont eu les conséquences. Mais avant qu'ils ne soient exécutés sur la place publique, Josué donne instruction au capitaine des gens de guerre de mettre leurs pieds sur le cou de ces rois. Qu'est-ce que tout cela signifie? Ce n'est pas si difficile de comprendre. C'est un symbole de victoire, tout comme dans le sport. Quand une équipe gagne, mettons la Coupe Stanley, s'empresse de lever la Coupe Stanley, ou peu importe le trophée selon le sport, on lève ça dans les airs en signe de victoire, on a battu tous les autres, c'est nous autres qui a gagné, on est victorieux. Et dans ces temps anciens, vous aviez ces symboles de victoire, et ces symboles étaient culturels, et tout le monde savait, et même ces rois cananéens savaient ce qu'ils signifiaient. Ils savaient ce qu'il en était lorsqu'ils ont senti le pied sur leur cou. Ils savaient que Josué et Israël déclaraient la victoire, « Nous vous avons défait ». Et c'est intéressant de savoir que David, le roi David, dans 2 Samuel 22, utilise ce langage dans son cantique à Dieu qu'il a délivré de ses ennemis, au verset 2. Il dit « L'Éternel est mon roc, ma forteresse, mon libérateur. » Le verset 3 « Le Dieu qui est mon rocher, où je me réfugie, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite dans ma fuite. Ô mon sauveur, tu me sauves de la violence. » Il met l'emphase, l'image donnant le focus clair sur Dieu. Et ensuite, dans les versets 40 et 41, je ne lirai pas tout le verset, mais juste une partie du verset 41. Dans la Bible anglaise, la King James, on a plus le ton qui fait relation au verset 22 de Josué 10. Il dit, en anglais, ça dit « You have also given me the necks of my enemy. » Tu m'as aussi donné le cou de mes ennemis, de mon ennemi. Alors que nous autres, il parle de tu leur as montré mon dos, je pense, dans les versions qu'on a, il parle du dos. Alors ici, dans la King James, il dit vraiment You have also given me the neck of my enemy. Alors ça fait le lien avec ce qu'il nous est dit dans Josué ici. C'est une image de victoire, de conquête. Il est très clair, n'est-ce pas, que David, lorsqu'il a écrit ces mots, il donne la louange au Dieu Tout-Puissant. Et il réalise qu'il doit donner à Dieu la louange pour la victoire. Et certainement, de même, Josué est dans la même lignée de pensée. Ce n'est pas une sorte de symbole de force macho. Vous savez, c'est macho puis qui revendique, qui se monte sur, se pète les bretelles, lui disent. Alors, c'est pas cette force de macho. Non, il témoigne de la bonté et de la fidélité de Dieu. Et quelquefois, dans nos combats contre le péché et contre le diable nous-mêmes, dans quelle mesure mettons-nous le focus sur la victoire de Dieu? Mettons-nous le focus sur la victoire de Dieu ou sur notre victoire personnelle? Est-ce qu'on met plus l'accent sur nous-mêmes ou si on donne le crédit à Dieu? Parlez-vous plus de votre victoire? J'ai résisté au diable. Je n'ai pas cédé à la pression au travail. J'ai été fidèle à ma femme pendant 25 ans. Mais vous savez pourquoi, n'est-ce pas? Dieu vous a donné la force. C'est de beaucoup plus concernant Dieu que vous. C'est la victoire de Dieu sur votre ennemi. Nous avons besoin de sa force, de sa puissance, n'est-ce pas? Dans des temps où nous sommes trop de soi, trop sûrs de soi, trop arrogants, ou quelque peu fier, et cela arrive quelque peu souvent, pour ne pas dire assez souvent. Vous savez, un peu comme Pierre, vous connaissez Pierre dans le Nouveau Testament, nous pensons que nous avons le contrôle et nous découvrons que nous sommes pleurnichards. Et cela n'en prend pas beaucoup, n'est-ce pas? Ici, nous avons ce merveilleux symbole de victoire. C'est la victoire de Dieu. C'est ce que nous devons réellement voir ici. Donc, nous avons vu la poursuite pressante de la victoire, le symbole graphique de la victoire, et le troisième point, le modèle, le plan clair de victoire. Après que ces cinq rois despotes sont exécutés et sont pendus aux arbres, nous ne pouvons pas oublier ce verset qui dit, ce qui nous fait penser à Galates 3:13, « Maudit soit quiconque est pendu au bois. » C'est quelque chose de la malédiction de Dieu. C'est un spectacle public, ouvert. C'est un avertissement, n'est-ce pas, à chacun des autres rois cananéens que vous ne vous en sauverez pas. Josué, après avoir réglé cette affaire avec ses cinq rois, verset 27, il les jeta dans la grotte où ils s'étaient cachés et il continua cette campagne de guerre. Et plus loin, dans les versets 28 à 39, nous avons six autres villes qui sont mentionnées ici, qui sont attaquées par Josué et Israël. Peu de détails nous sont donnés, et il est clair que Josué fait passer le rouleau compresseur à travers le sud de Canaan, une nation après l'autre, sans trop d'efforts, pour ainsi dire. Oui, Josué est en combat. Il doit prendre son épée, son bouclier. Mais nous ne devons pas perdre de vue, comme nous l'avons dit précédemment, Dieu est aussi derrière chacune de ses victoires. Le verset 30 nous est dit, « L'Éternel la livra aussi. » Le verset 32, « L'Éternel livra Lachish. » Verset 42, « Car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. » Pendant que ce mastodonte se déplace à travers le sud de Canaan, en parlant de toute l'armée de Josué et tous ses gens, engloutissant les cités les unes après les autres, nation après nation, il y a une plus grande force, une plus grande puissance ici. Dieu est à l'œuvre. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, détruit ses ennemis. Aucun ne peut retenir ses mains. Josué 10 est au sujet et concernant la victoire. Donc, nous avons vu la poursuite présente de la victoire, le symbole ou le signe graphique de la victoire, le modèle ou le plan clair de la victoire. Et que dirions-nous en termes d'application? En conclusion, deux applications qu'on peut faire ressortir. Josué 10 nous dit ceci. Il renforce, il souligne le fait que nous, en tant que chrétiens, avons besoin constamment à en venir au fait que nous sommes en guerre. Ou on pourrait l'amener de cette façon. Nous, en tant que chrétiens, avons besoin de développer une mentalité de temps de guerre. Cette série dans Josué fait ressortir qu'en tant que chrétiens, nous devrions comprendre la vie chrétienne, ce que cela implique réellement. Eh bien, cela implique le combat. C'est le thème dominant, n'est-ce pas, du livre de Josué. C'est au sujet de la guerre. Et il y a quelque chose concernant la guerre, dans la réalité de la guerre, dont nous voulons nous éloigner et dont nous ne voulons même pas en parler. C'est certain que lorsqu'on parle de guerre, c'est pas vraiment jojo, comme on dit, c'est pas très, très jovial. C'est comme le fait que, mettons que moi, j'aime pas aller chez le dentiste. J'aime pas ben ça. Je sais pas s'il y en a qui aiment ça, là, qui raffolent de cela. Là. Moi, j'aime pas ça. C'est comme si je dois aller chez le dentiste, mais parle-moi-en pas. Mettons, j'ai un rendez-vous chez le dentiste demain, parle-moi-en pas. Dans le sens, faut que j'y aille, mais parlez-moi-en pas. Et nous ne voulons pas penser de la vie chrétienne comme une guerre. Nous ne voulons pas, pourquoi? La guerre est douloureuse, est souffrante, est brutale. Vous pouvez être tué à la guerre. La guerre veut dire l'abnégation de soi, l'imposition de privation. Lorsque Paul exhorte Timothée d'être un pasteur fidèle, il relève le concept de guerre ou l'image d'un soldat dans 2 Timothée 2:3. Il dit « Souffre avec moi comme un bon soldat du Christ Jésus. Souffre avec moi. » Alors, c'est une question de souffrance, c'est une question de donner de soi. Tu vas perdre quelque chose à quelque part, dans le sens... En anglais, le terme... J'aime en anglais, parce que des fois, les mots portent. Ça dit « You therefore must endure hardship. » Vous devez endurer... hardship, bon sang, je ne me rappelle pas ce que ça veut dire. Francine... Les difficultés, les épreuves. Endurer les épreuves. Alors, il va y avoir des épreuves, alors tu vas devoir endurer les épreuves. Ça ne veut pas dire que ça peut arriver qu'elles s'éloignent, mais souvent, elles sont là. Il faut que tu passes à travers, il faut que tu les endures. Et c'est ce qu'un soldat fait. La vie d'un soldat n'est pas facile. Et chacun de nous sommes appelés à être des soldats. Paul utilise le grand graphique, la grande image, probablement le plus grand du Nouveau Testament. C'est le graphique de Éphésiens 6. Il énonce cette grande image de la tête aux pieds d'un soldat, l'armure du soldat. C'est vous, c'est nous. C'est ce que Paul semble dire aux Éphésiens. N'oubliez pas ceci, vous êtes en guerre. Vous êtes en guerre. Vous n'êtes jamais en paix avec votre ennemi. Et pour être un bon soldat et gagner la guerre, vous devez être sévère, être rude et même être violent. Josué donne l'exemple. Il a exécuté les 5 rois. Il a complètement détruit les Cananéens. Il les a exterminés. Dieu lui avait dit de les vouer à l'interdit. Vouer à l'interdit, ça veut dire qu'il ne faut plus qu'il reste rien. Lorsqu'il en vient contre ses ennemis, il n'y a pas de miséricorde. Il demeure violent. Citation de John Owen, vous avez certainement tous entendu cela. « Vous devez tuer le péché ou le péché va vous tuer. » Si vous tuez pas le péché, ça va vous revenir par en arrière de la tête. Vous allez recevoir un coup de batte de baseball en arrière de la tête. Pensez-vous à la vie de tous les jours comme sautant sur le champ de bataille? Si nous pensions réellement à cela de façon constante et fréquente, est-ce que cela ne devrait pas changer notre comportement et notre façon de vivre? Si nous croyons cela dans la prière du Notre Père, dans Matthieu 6, « Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. » Est-ce que ces mots ne prendraient pas toute sa signification? Frères et sœurs, nous sommes dans une guerre et vous n'avez pas à sortir de votre maison pour être impliqué dans une guerre. Les choses ont changé depuis plusieurs années. Maintenant que nous avons des ordinateurs, Internet, la guerre peut prendre place dans notre maison. Des endroits que nous n'aurions jamais senti que nous aurions besoin de prendre une épée, un bouclier. Mais maintenant, nous le faisons chaque jour. L'ennemi est à leur recherche, rôdant. Chaque jour, le monde démontre et dévoile son orgueil de la vie, la convoitise des yeux, de la chair. Chaque jour, il y a une bataille qui prend place dans nos cœurs. Pourquoi est-ce que nous luttons tant pour quelque chose d'aussi simple, d'aussi de base, basic, que de lire notre Bible? Pensez-vous que c'est une affaire de cédule et d'horaire? C'est une affaire de combat et de victoire. C'est une affaire, une question de dire non à la chair. Vous voyez, le diable veut que nous demeurions faibles et ignorants. Ainsi, il essaie de vous tenir à l'écart de vos temps de prière, de votre Bible. Pensez-vous que nous oublions que nous sommes en guerre? Est-ce pourquoi que nous venons à l'église le dimanche, peut-être blessés, touchés par l'ennemi? Vous avez été joué, vous avez été trompé dans la pensée que vous étiez en vacances ou dans une croisière exotique, mais vous ne l'êtes jamais. Vous êtes en guerre. Nous sommes abattus dans une torpeur et une insouciance, une nonchalance, et nous oublions facilement que nous sommes en guerre. Et lorsque nous faisons cela, nous ne sommes pas alertes et violents avec notre ennemi. C'est un peu comme un boxeur. J'aime pas la boxe, mais des fois j'aime les combats de boxe. J'aimais ça regarder Rocky, là. Mais j'aime, il y en a un aussi que j'aime, c'est... comment est-ce qu'il s'appelle? Il s'appelle Cendrillon. C'est avec... je me rappelle plus. Avec, c'est, en tout cas, il s'appelle... comment il s'appelle? En tout cas, parce que je veux le dire. Un boxeur, pour être un bon boxeur, il faut que ta garde soit haute. Aussitôt que tu baisses les bras, tu es fait à l'os. Faut que tu sois de même. Si t'es de même, paf! K.O. puis ça prend pas de temps, là. Poum! Alors, c'est un peu de même. Aussitôt qu'on baisse la garde, qu'on pense qu'on est en sécurité, qu'on est en vacances, qu'on est sur un bateau exotique puis qu'on est sur une belle croisière. David a oublié qu'il était en guerre. Pensez-y bien. Il pensait qu'il pouvait aller sur le toit et se dandiner, oubliant les affaires de la guerre. Alors qu'il aurait dû être sur le champ de bataille lui-même, en tant que roi. Mais il est sur le toit dans son pyjama. Et il prend du bon temps. C'était pas une si grosse affaire que ça. Il se délassait. Il dormait pas. Il va aller prendre une petite brise légère. Mais il est frappé d'une balle de convoitise tirée par un tireur embusqué sur le toit de son palais. Josué a fait mieux que lui. Il est demeuré violent. Il a poursuivi l'ennemi. Il a capturé l'ennemi et il a tué l'ennemi. Il n'a jamais oublié qu'il était dans une guerre. Chaque jour, frères et sœurs, vous êtes dans une guerre. Chaque jour, vous sautez sur le champ de bataille. Chaque jour, vous devez dire non à la chair. Chaque jour, le diable aimerait prendre ses griffes et ses dents et vous égorger. Chaque jour, quand cela finira-t-il? Eh bien, seulement lorsque vous traverserez le fil d'arrivée et entrerez au ciel, pas une seconde avant. Un puritain a dit, « Le diable vous mordillera le talon tout le long jusqu'au ciel. » Le diable va vous picosser le talon tout le temps. Tu savais comment... Je ne sais pas c'est quel animal qui fait ça là, quand tu te promènes, mettons, dans une basse-cour. Puis là, il était tout le temps prêt. Puis peut-être, je pense, c'est pas une sorte de poule, je pense. La poule, une sorte de poule, le coq bendé, je pense, il appelait ça. Je me rappelle mon grand-père de ça. Puis elle picossait tout le temps, elle essayait tout le temps de picosser le jarret. C'est un peu ça. Le diable, il va nous mordiller constamment le talon tout le long de notre pèlerinage terrestre. Puisse Josué nous aider à nous rappeler que nous sommes en guerre et que nous soyons habités d'une mentalité de guerre. Notre deuxième point d'application, nous sommes encouragés ici à combattre loyalement et avec confiance parce que la bataille a été remportée, gagnée. Ça semble être une pensée double, si on pourrait dire ici, mais voyons comme il faut. Josué a utilisé ces cinq rois comme une leçon d'objet. D'un côté, vous diriez que c'est une leçon d'objet effrayante. Si vous êtes un non-croyant, cela dit essentiellement que vos jours sont comptés. Vous pouvez vivre et pécher sans avoir de conséquences. Vous pouvez contenter votre chair et ne pas être puni un jour. Vous pouvez combattre contre Dieu et gagner. Vous pouvez gagner ce combat. Si vous êtes pour combattre contre Dieu, vous devez être comme ces cinq rois. Ainsi, il y a une note négative, si vous voulez. Mais Josué n'a pas fait cela avec ses cinq hommes et a fait mettre les pieds de ses cinq hommes sur le cou de ses cinq, le pied de ses hommes sur le cou de ses cinq rois pour effrayer les gens, non pas pour effrayer les gens, mais pour encourager ces gens et ces hommes de guerre. Il y a quelque chose d'encourageant à leur dire. Notez ce qu'il dit alors que leur pied est encore sur le cou de ses rois. Le verset 25. « Soyez sans crainte, ne vous épouvantez pas, fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera vos ennemis contre lesquels vous combattez. » Et le mot « fortifiez-vous » Ayez du courage, soyez sans crainte, ne vous épouvantez pas. Est-ce que ce n'est pas constamment ce que l'Éternel disait à Josué au tout début du chapitre? Fortifie-toi et prends courage. Alors, Josué revient avec la même rengaine. Et c'est ça qu'on retrouve constamment dans les péricopes de Josué. Fortifiez-vous et ayez du courage. Josué luttait avec la peur. Et il sait que le peuple de Dieu lutte avec la peur, la crainte. Et il y a beaucoup de choses à avoir peur, spécialement lorsque nous pensons que nous sommes en guerre. Nous avons peur de perdre. Nous avons peur que l'ennemi nous domine. N'êtes-vous pas craintif quelquefois lorsque vous voyez la puissance de votre corruption rémanente? N'êtes-vous pas devenu craintif lorsque vous trébuchez dans le péché et que vous dites « Comment est-ce que j'ai pu tomber si facilement? » Vous êtes apeuré, craintif certainement, lorsque nous perdons ces batailles. Il nous arrive de perdre des batailles. Lorsque nous regardons notre ennemi en face, on a peur. La parole de Dieu de ne pas sous-estimer notre ennemi non plus. Josué veut que nous regardions notre ennemi en face et ne pas être craintifs, apeurés. N'est-ce pas ce qu'il dit? Je veux que vous regardiez à ces cinq rois et je ne veux pas que vous soyez craintifs, apeurés. Mais pourquoi? Quel en était le point? Josué dit, ces cinq rois ont été vaincus, conquis, ils ont été défaits. C'est ce que ce signe, ce symbole signifie. C'est ce qu'il dit. L'ennemi a été détruit. Lorsqu'il met il dit à ses cinq, à ses hommes de mettre le pied sur le cou des cinq rois. L'ennemi a été détruit. Et chaque chrétien devait être capable de penser dans cette même ligne de pensée. Lorsque nous en venons à nos péchés, l'ennemi de la mort a été défait. Romains 6, 14. Le péché ne dominera pas sur vous. Cela ne signifie pas que vous n'êtes plus engagé dans une guerre, mais votre ennemi a été défait. Il n'a plus de domination sur vous. Il n'est plus le tyran. Vous avez, pour ainsi dire, votre pied sur son cou. Qu'en est-il du monde? C'est notre ennemi. Qu'est-ce que dit Paul dans Galates 6? Quant à moi, certes non, je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de Christ, de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi. Cela sonne comme une défaite. Le monde est mort. C'est une image de défaite. Le monde a été crucifié. Le péché n'est plus votre maître. Le péché a été défait. Le monde a été défait et le diable n'a-t-il pas été conquis aussi? Pensez à ce que Jésus a fait à la croix. Ce que Colossiens 2, 14-15 nous dit, « Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Il a écrasé la tête du serpent. Le diable a été défait. C'est ainsi que nous disons, chrétiens, ne soyez pas apeurés, craintifs. Vous allez arriver au ciel, vous allez surmonter, vaincre. Vos ennemis ne peuvent vous vaincre, ils ont été défaits. Le diable, le monde, le péché ne peuvent nous arrêter, nous empêcher d'atteindre la cité céleste. Ne craignez pas. 1 Jean 4, 4 nous dit, « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Ainsi, ce qui nous reste à faire est de continuer à combattre. Le combat n'est pas terminé. Ne laissez pas tomber votre épée. Ne baissez pas votre bouclier. Baissez pas la garde. Laissez la garde haute. Ce sont des batailles que vous pouvez remporter. L'ennemi est défait par la grâce de Dieu, la force de Christ et la puissance du Saint-Esprit. Nous combattons des batailles que nous pouvons gagner. Continuons de combattre et un jour, vous allez régner avec le roi Jésus. Un jour, nous serons au ciel et nous serons capables de célébrer la victoire sur tous nos ennemis parce que Jésus-Christ a conquis tous nos ennemis. Ce dernier cri sur la croix au calvaire était un cri de victoire. Tout est accompli. À cause de Christ, nous vaincrons et nos ennemis ne nous surmonteront pas. Continuons à combattre jusqu'au jour de notre mort. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole. Nous te remercions, Seigneur, de ce que tu t'es révélé dans ta parole, dans ce livre que nous avons, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous éduquer, de nous instruire, de nous avoir donné ton Esprit Saint, Seigneur, pour parler à notre cœur, interpréter ta parole, Seigneur, et nous aider à marcher dans cette vie, Seigneur, dans le combat, dans ce combat que tu as gagné à la croix, Seigneur, lorsque tu as dit « Tout est accompli ». Nous te rendons grâce, notre Dieu, dans le nom de Jésus. Amen.